Bonjour, et ça me fait vraiment, vraiment énormément plaisir d'être avec vous ce matin. Et merci pour votre accueil, merci aussi pour tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui m'accompagnent et qui continuent à me soutenir d'une manière ou d'une autre. Et juste pour donner peut-être quelques nouvelles, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin et depuis septembre, je suis en stage pastoral à Toulouse. Et c'est juste trop bien, c'est vraiment génial pour moi de pouvoir servir l'Église comme ça, avec presque à plein temps, de pouvoir voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que j'en retire en faisant un petit bilan déjà de ces 10 mois de stage. Déjà, à quel point l'Église, c'est merveilleux, c'est le grand projet de Dieu et je pense qu'il n'y a pas de meilleure occupation que de s'y investir. Et je constate aussi à quel point ça prend du temps, à quel point j'ai besoin d'être formé et de grandir aussi dans ma propre fidélité à Dieu pour tous les défis qui touchent à l'Église, que ce soit pour l'enseignement, que ce soit pour l'accompagnement des personnes. Et donc c'est pour ça que j'ai à cœur, de plus en plus, de me former après ce stage pour du pastorat ou quelque chose qui serait lié à ça. Et donc si vous pouvez continuer à prier pour ça, pour ma formation, que ce soit de mon caractère, et juste le fait que je puisse être plus fidèle à Dieu et que je puisse être bien équipé et outillé pour pouvoir le servir là où il voudra, dans les délais où il le voudra. Tout n'est pas clair du tout dans quel ordre ça va se faire, mais je veux vraiment avancer avec confiance en lui. Et donc, je serais reconnaissant si vous pouviez continuer à prier pour ça. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre 3. Et avant de lire le texte, j'aimerais vous proposer une petite histoire. J'aimerais qu'on puisse s'imaginer chacun qu'on est au bord de la piscine de la maison de nos rêves. Ça fait 10 ans qu'on économise pour acheter cette maison dans l'Ouest lyonnais. On est tranquille, il fait beau, on a un cocktail à la main, la vie est belle. Ça y est, enfin, on y est. Et là, quelqu'un sonne à la porte. Alors, un peu dérangé, vous allez ouvrir et vous voyez un homme en costard et vous savez immédiatement qu'il veut vous vendre quelque chose. Vous êtes gentil, vous le laissez se présenter et il vous explique qu'il est un avocat et qu'il vous propose ses services. Il vous tend sa carte de visite. Et là, évidemment, l'avocat, c'est à peu près la chose dont vous avez le moins besoin en ce moment. Donc vous faites, merci monsieur, vous fermez la porte et vous retournez au bord de votre piscine, oubliant cet événement jusqu'au jour suivant. Jusqu'au jour suivant où vous ouvrez votre boîte aux lettres. Et là, vous avez un courrier qui a l'air tout à fait officiel et votre sang se glace quand vous voyez de quoi est-ce qu'il s'agit. Avis d'expropriation. Et en fait, vous apprenez que vous êtes pile sur un arrêt de métro ou un pylône de métro aérien qui va être construit. Et là, d'un coup, vous comprenez qu'en fait, vous avez besoin d'un avocat. Et d'un très bon avocat, si jamais vous voulez avoir la moindre chance de sauver votre maison. En 10 secondes, vous êtes passé d'une situation d'indifférence totale par rapport à cette personne qui s'était présentée à vous, à une situation où vous avez conscience qu'en fait, vous avez besoin de lui. Quel rapport avec le texte? Je propose qu'on le lise, la première partie. Je vais lire les versets 1 à 20 et après, on en discutera. Donc Luc chapitre 3, versets 1 à 20. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez de ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dire, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et l'amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Quel rapport entre cette histoire de maison d'avocat et ce que nous venons de lire? Eh bien, je pense que là, dans le texte qu'on vient de lire, il y a quelque chose d'énorme, d'absolument énorme. Regardez ce verset 6. Tout homme verra le salut de Dieu. Et en fait, nous, quand on lit ça, franchement, on s'en fiche un peu. On est plus en train de penser à qu'est-ce qu'on va manger à midi. On est plus intéressé par le prochain match de l'Euro que par ce salut de Dieu qui nous est présenté ici. Et pourquoi est-ce qu'en fait on s'en fiche un peu? Pourquoi est-ce que ça nous passe un peu au-dessus de la tête? Parce qu'on n'est pas convaincu qu'on en a besoin. C'est comme tout à l'heure, quand on n'a pas compris que notre maison, elle risque d'être rasée, et bien on ne pense pas avoir besoin de quelqu'un pour nous défendre dans cette situation. Et dans cette première partie de ce texte, on va essayer de voir pourquoi est-ce que ce salut, on en a vraiment, vraiment besoin et à quel point c'est une nouvelle qui est extraordinaire. Pourquoi ce salut? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Premièrement, regardez le vocabulaire de ce texte, à quel point une répétition de cette colère qui vient au verset 7, verset 9, cette image d'arbres qui vont être coupés et jetés au feu. Et enfin, verset 17, cette image de la paille qui va être brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. En un mot, Dieu est en colère. Dieu est en colère contre les hommes. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour serait en colère? Regardez avec moi au verset 11. Il est en colère, en fait, parce que on est égoïste. On est égoïste, on voit là avec les personnes à qui s'adresse. Et ça, on sait, l'égoïsme des hommes, c'est ce qui nous-mêmes nous met hors de nous. On est choqué quand on entend les rapports qui nous annoncent qu'il y a 80% des richesses qui sont produites chaque année, qui vont dans 1% des poches des personnes qui sont déjà les plus riches. Mais en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, on est coupable de la même chose. Quand on étudie nos propres comptes en banque, quand on regarde par rapport à ce qu'on gagne de superflu, et qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait profiter aux autres, qu'est-ce qu'on essaie de mettre de notre côté pour nos propres sécurités, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas mieux placé. Pourquoi est-ce que Dieu est en colère? Versets 12 et 13, parce qu'on est avare. Pareil, on s'offusque de l'évasion fiscale des grandes fortunes, des grandes entreprises, mais en fait, est-ce qu'on ne fait pas la même chose quand on essaie de gratter quelques euros en ne payant pas nos films ou nos séries, quand on abuse un peu de ce pour quoi on est payé et qu'on fait des activités personnelles sur notre temps de travail? Pourquoi est-ce que Dieu est en colère au verset 14? Parce qu'on est violent. Et la violence, ça nous révolte. On peut regarder là le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui est une grande révolte légitime contre des violences qui sont faites à des minorités. Mais pareil, si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on s'écoute quand on est énervé, quand on se met en colère contre des gens, ce qu'on est capable de dire et de penser face à des gens qui nous pourrissent la vie, quand on est capable de dire « je vais le tuer », on se rend compte qu'en fait, on n'est pas mieux. Et quand on reprend ce mouvement Black Lives Matter, on se rend compte que ce n'est pas le mouvement le plus pacifique au monde non plus, et qu'en fait, il se rend coupable des mêmes choses que finalement, il dénonce. Et donc voilà toutes ces raisons pour lesquelles Dieu est en colère. En fait, c'est les mêmes raisons que nous, sauf que lui, il est juste et qu'il est en colère contre tous ceux qui commettent ce type d'injustice. Et donc, au bout du compte, en fait, notre première action quand on entend parler de Dieu, de ce Seigneur qui vient, ça devrait être ce même sentiment qu'un criminel qui se sait recherché quand il entend les sirènes qui entourent sa maison. Et pour savoir si on prend vraiment au sérieux ça, si on a vraiment conscience d'être coupable devant Dieu, la question à se poser, c'est quand est-ce que c'est que je me suis vraiment posé devant Dieu pour lui demander pardon? Est-ce que je lui ai vraiment déjà dit une fois que, en fait, il aurait raison de me condamner, qu'il a raison d'être en colère contre moi? Est-ce que c'est déjà seulement arrivé, ou quand est-ce que c'est la dernière fois que je l'ai fait? Ça, c'est la première raison pour laquelle on a besoin de ce salut, c'est que Dieu est en colère contre nous et que ça va chauffer quand il viendra. La deuxième raison, pour s'en rendre compte, c'est facile, il suffit d'aller à la FNAC ou à des sites au rayon bien-être et de regarder tous les livres. Et là, vous allez voir des centaines et des centaines de livres qui vont vous présenter la méthode pour changer vraiment, radicalement, profondément. Et vous pourrez faire la liste. Il y en a qui vont proposer le changement par la pensée positive, d'autres par la méditation, par l'estime de soi, par l'alimentation, les énergies, la guérison des blessures. Tout est possible. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Si ça marchait, en fait, il n'y aurait pas autant de livres. On ne continuerait pas à éditer ceux qui ne marchaient pas et on ne continuerait pas à en sortir progressivement. Donc ces livres, toutes ces solutions, elles prouvent à la fois qu'on a envie de changer, mais qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, et la bonne nouvelle, c'est que ce changement, c'est exactement ce qui est proposé ici. La repentance, un changement radical et qui transforme tous les domaines de notre vie. Ici, il y a des gens qui sont en train de dire, mais on veut que cette transformation radicale, ça change même la manière dont on travaille tous les domaines de notre vie. Et ce qui est génial, c'est que Jean n'est pas en train de dire, allez-y, changez, et ainsi vous serez sauvés. Jean est en train de dire, le salut est là, apporté, et si vous le saisissez, il produira du fruit, en conséquence, un changement d'attitude dans tous les domaines de votre vie. C'est ça la différence radicale, en fait, entre le message de Jean, de Jésus, de la Bible, et celui de toutes les autres spiritualités ou religions. Ce n'est pas nous qui allons chercher à changer pour être sauvés, mais c'est ce salut qui nous propose de changer radicalement. Et donc, bonne nouvelle, pas besoin d'aller essayer tous ces bouquins qui sont dans les rayons ou toutes ces vidéos, ces conférences sur YouTube. De quoi est-ce qu'on a besoin? De ce salut qui nous est proposé. Par contre, ce salut, effectivement, il produit des fruits. Et donc, si on se dit chrétien, ça peut être un super exercice de se poser aujourd'hui ou cette semaine, juste 15 minutes, seul, avec Dieu, une feuille, un stylo, et d'écrire en fait quels sont les fruits dans nos vies. De réfléchir quelles sont les choses qu'on faisait avant de connaître Dieu et qu'on ne fait plus, et vice-versa. Et si on a besoin d'un petit peu d'aide aussi pour ça, on peut prendre un passage qui se situe dans Galates, au chapitre 5. Galates 5, les versets 19 à 23, et qui liste certains des fruits qu'on produit quand on est chrétien, quand on a l'esprit. Et quels sont les fruits, par contre, de l'absence de Dieu dans nos vies. Et quand on a fait cette liste, on peut louer Dieu pour tous les fruits qu'il produit dans nos vies, et les garder, et relire ça, et refaire cet exercice régulièrement. Tout ça, c'est les raisons pour lesquelles, en fait, on en a besoin de ce salut. En fait, c'est une nouvelle qui est juste absolument merveilleuse, que le salut de Dieu est là pour tout homme. Petit problème, arrivé ici, c'est qu'on ne sait pas trop comment il marche, ce salut. On a juste deux indices. Verset 4, « Préparez le chemin du Seigneur ». Donc, le salut, il est venu, il est lié à la venue du Seigneur, à la venue de Dieu. Et deuxième indice, verset 15, il est question du Messie. Le peuple attendait le Messie, et le Messie, c'était en fait le sauveur. Dieu avait promis à son peuple, avant que Jésus arrive, bien longtemps avant, qu'il enverrait un sauveur. Donc on se dit, ouais, y a Dieu qui va venir, il y a un sauveur qui va venir, mais comment est-ce qu'on le reconnaît? Si on reprend l'image du début, on a envie d'avoir quelqu'un qui va nous défendre pour qu'on puisse sauver notre maison, mais on ne veut pas n'importe qui. On ne veut pas un escroc, on veut être sûr d'avoir quelqu'un qui a déjà défendu des personnes, qui est en capacité de nous faire gagner ce procès. Et ça, c'est ce qui va nous occuper dans la deuxième partie de ce passage. Et je vais continuer la lecture, donc chapitre 3, verset 21, et je vais lire jusqu'au verset 14, verset 15, pardon, du chapitre 4. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on croyait, vous êtes prêts ? Fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Elsi, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Matathias, fils de Simei, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Shealtiel, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadan, fils d'Er, fils de Josès, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Malial, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaï, fils d'Obed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nachon, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Estrom, fils de Péret, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Seruch, fils de Rabo, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arpachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusela, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Cainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Anon, fils de Dieu. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Mais après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Et là, vous avez peut-être remarqué, mais alors que jusqu'à là, Luc, l'auteur de cet évangile, avait soigneusement éviter d'employer le nom de Jésus, ça y est. Verset 21, qui arrive après qu'on ait senti ce besoin d'un sauveur ? Jésus. Donc là, Luc est en train de nous dire, ce sauveur, ce Seigneur, ce Messie tant attendu, c'est bien Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut en être sûr ? Premièrement, regardez ce qui se passe quand Jésus entre sur scène. Il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire, qui ne se repassera jamais. Le ciel s'ouvre, se déchire. Et là, en fait, ce n'est pas juste Dieu qui est en train d'envoyer un ange pour proclamer un message. Et déjà, ça aurait été extraordinaire. Là, Dieu est en train de d'enlever toute séparation qu'il y a entre le ciel, là où il est, là où il réside, là où il habite, pour s'adresser directement aux hommes. Il envoie de manière visible et audible des signes. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui descend sur Jésus pour témoigner, affirmer, attester publiquement qui est Jésus, que c'est bien effectivement ce Fils, il est bien approuvé pour Dieu, il y a bien cet Esprit de Dieu qui réside en lui. Et que dit Dieu? Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Il n'y a pas de doute. Jésus est bien désigné par Dieu. C'est bien le Fils, c'est bien Dieu lui-même qui vient. Et alors que nous, on a vu juste avant qu'on avait tout sauf l'approbation de Dieu, on avait sa colère. Jésus, lui, il a l'approbation de son Père. Et là, peut-être qu'en bande occidentaux du XXIe siècle, ça nous gêne cette idée qu'il y aurait un sauveur exclusif. On se dit, au mieux, Jésus, c'est un moyen pour être sauvé, mais quelqu'un qui serait d'une autre religion, un bouddhiste honnête dans sa foi, qui chercherait sincèrement Dieu, ou même un athée, mais qui ferait du bien autour de lui, ben, il devrait être sauvé aussi, n'est-ce pas? Si c'est notre raisonnement, il faut quand même qu'on réfléchisse soigneusement avant de prétendre nous-mêmes quels sont les moyens du salut. Et si je peux vous donner une petite illustration, combien y a-t-il de moyens différents de recharger votre iPhone, si vous en avez un? A priori, un, c'est celui qui est désigné par le constructeur. Vous prenez l'adaptateur, puis vous le branchez des deux côtés sur l'iPhone, sur la prise secteur, et c'est comme ça que vous rechargez votre iPhone. Mais peut-être que ça vous paraît un peu intolérant de dire il y a une solution pour recharger mon iPhone. Peut-être que ça paraît un peu exclusiviste. Et donc, dans ce cas-là, vous avez le droit d'essayer d'autres solutions pour charger votre iPhone. Et vous avez le droit, par exemple, de croire des fausses pubs qui étaient parues sur Facebook il y a quelques années et qui prétendaient qu'il y a une autre solution pour charger votre téléphone. Le mettre dans le micro-ondes pendant 3 minutes. Vous avez le droit de le croire, vous avez même le droit d'essayer. Mais le problème, c'est que non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, ça va bousiller en 3 secondes votre téléphone. Donc, on a le droit de croire ce qu'on veut. Mais si à un moment, le constructeur, il nous dit que la solution, c'est ça, on ferait mieux de l'écouter. Donc, c'est la même chose pour le salut. On ferait mieux d'écouter ce que Dieu dit de la manière dont on est sauvé. Dieu a pris le soin, a pris la peine de désigner Jésus comme le sauveur, l'unique et exclusif sauveur. Utilisons cette solution-là. Et ça peut aussi nous remplir de confiance quand on réalise que justement, il y a un unique sauveur, ça devrait nous donner envie de parler de ça autour de nous. Et ça devrait nous donner une confiance qu'on n'est pas en train d'avoir une solution qui peut-être marche, peut-être pas, peut-être parmi d'autres. Non, Jésus, c'est la seule et unique solution, le seul nom par lequel on peut être sauvé. Utilisons-le et proclamons-le avec foi. Ensuite, vous êtes peut-être demandé à quoi servaient ces 77 noms que j'ai lus, à part rendre la lecture un petit peu fastidieuse. Et je suis désolé, je ne vais pas pouvoir passer beaucoup de temps sur chacun de ces noms, mais on va en regarder juste deux. Le premier, c'est au verset 31. Luc, il souligne le fait que dans l'ascendance de Jésus, il y a David. Et ça, c'est super important parce que le Messie dont il a été question là, dans les versets d'avant, le sauveur promis par Dieu, Dieu avait dit que ce serait un descendant de David. Donc là, Luc est en train de dire, ah, Jésus, il a la bonne lignée en fait pour être notre sauveur. Et deuxièmement, il fait remonter, c'est pour ça que c'est long, jusqu'à Adam. Pourquoi est-ce que Luc prend la peine de citer de père en fils jusqu'à Adam? En fait, il est en train de nous montrer que Jésus, il est bien humain, il est bien un représentant légitime de l'humanité. Une autre illustration, certains savent que le foot, c'est pas mon truc, et pourtant, je suis français, et donc je peux prétendre qu'on est les champions du monde de foot, que je suis le champion du monde de foot. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une équipe de foot avec des joueurs qui ont la nationalité française, qui ont remporté une compétition. Et parce qu'on partage cette même nationalité, cette même identité, leur victoire, je peux m'y associer. Et là, c'est la même chose que Luc, il est en train de faire, il est en train d'essayer de montrer. Jésus, ce n'est pas juste le Fils de Dieu. C'est aussi l'humain, un représentant légitime de l'humanité. Du coup, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, eh ben moi aussi, je vais pouvoir y être associé. Et donc, c'est un Jésus bien humain qui va dans le désert à partir du chapitre 4. C'est un Jésus bien humain qui se prive de nourriture pendant 40 jours. Donc, au bout de 40 jours, oui, il a eu faim. Au bout de 40 jours, il n'avait plus à réfléchir normalement. Il avait son ventre qui devait juste être complètement impuissant, presque incapable de se bouger. La tentation pour Jésus, elle était réelle. Et là, il y a Satan lui-même qui vient pour le tenter. Et là où nous, on sait très bien que même si on ne s'était pas abstenu de nourriture pendant 40 jours, on aurait été incapable de résister à chacune des tentations qui est proposée ici. Les tentations du plaisir, de la gloire, du pouvoir, de l'égocentrisme, de tout avoir pour nous. Jésus, que fait-il face au diable qui le tente? Il résiste. Il est écrit, il est dit. Jésus, quand il est presque au bord de la mort, il est en train d'être tenté. Et il peut juste céder un tout petit peu pour sauver sa pomme. Et lui, quelle est sa seule autorité, son seul réflexe qui lui reste dans ce moment-là? Il cite la Bible. Et sa seule autorité qui lui reste, c'est celle de la parole de Dieu, de la parole de son Père. Lui, Jésus, il résiste totalement partout où là nous échouons. Lui, il reste parfaitement fidèle. Et ça, c'est deux choses qu'on a vues. Le fait que Jésus, ce soit bien un humain, un représentant légitime de l'humanité, et qu'en même temps, il ait résisté, c'est ça qui a deux conséquences énormes et merveilleuses pour nous. Premièrement, on a un représentant humain parfaitement obéissant. Il y a quelqu'un qui a gagné pour nous. Tout comme on peut dire on est les champions du monde, et bien on peut dire il y a quelqu'un qui était obéissant pour nous. Et ça, c'est génial si on lutte avec la culpabilité. Si on a l'impression, on se dit « Ok, Dieu, il pardonne, mais il ne pardonne pas ça. Moi, j'ai trop péché, j'ai fait quelque chose de trop grand, au-delà de son pardon. » Et bien en fait, c'est faux. Il n'y a rien qui est au-delà de son pardon. Pourquoi? Parce qu'on a un représentant qui, lui, a été parfaitement obéissant et son obéissance est plus grande que notre désobéissance. Si on l'accepte comme sauveur, en fait, les plus graves des péchés, un adultère, ça peut être pardonné. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas grave, mais c'est parce qu'en fait, Jésus, lui, il a été parfaitement obéissant. Et c'est génial aussi si on doute de notre salut. Il n'y a pas très longtemps, un ami me demandait si je doutais de mon salut. Et en fait, j'aurais plein de raisons de douter de mon salut. Des gens aussi qui savent que je suis loin d'être parfaitement obéissant, que je n'ai pas eu d'expérience de conversion extraordinaire, donc j'aurais plein de raisons d'être dans le doute. Mais je ne le suis pas. Pourquoi? À cause de ce texte. Parce qu'en fait, ce texte, il nous décrit un grand sauveur. Et donc, si on doute de notre salut, l'idée, c'est qu'il faut qu'on arrête de regarder à nous, mais qu'on regarde à ce Jésus qui est notre représentant parfait et qui, lui, a obéi parfaitement. On a un sauveur en béton. C'est ça que Luc est en train de nous montrer ici. Ça, c'est la première conséquence énorme. Et la deuxième, c'est qu'en fait, le diable, il n'a plus de pouvoir sur nous. Guy l'a dit tout à l'heure, on était esclave du péché. On ressemblait un petit peu à peut-être un gamin de sixième, pas très costaud, qui se fait racketter à la sortie du collège tous les jours. Et même s'il veut résister, il va juste se faire battre et on va lui prendre son porte-monnaie. Il n'a juste aucun pouvoir pour résister. Une fois qu'on a Jésus qui, lui, allait dans le désert, il affiche une raclée monumentale au diable. Bah, ça veut dire qu'on ressemble au même gamin tout chétif, mais qu'à le grand frère de 18 ans qui allait mettre une raclée à celui qui nous racketait. Donc en fait, on n'a plus à avoir peur. On n'a plus à obéir, on n'a plus à sortir cet argent de notre porte-monnaie. On est libre, libéré du péché. Et ça, c'est fort aussi face à un autre mensonge qu'on a tendance à croire, toutes ces situations où on se dit, mais en fait, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à résister. Pour certains, c'est des trucs qui paraissent bêtes, mais juste la paresse, l'oisiveté, on sait qu'on devrait faire des choses, etc., mais on a vu Ouais, on n'arrive pas à résister à la tentation des écrans, juste de rien faire. Ça peut être toutes les tentations qui sont liées à un célibat qui dure. On se dit, mais c'est juste intenable. J'y arriverai pas. Ça peut être pour certains aussi la colère. On se met littéralement hors de nous et on se dit, mais en fait, je contrôle plus rien. Sauf que ce passage, il nous rappelle qu'on a avec nous Jésus, qui lui a parfaitement résisté, qui lui nous a libérés de cette oppression, de cet esclavage du diable. Et donc, quand on a ces pensées de dire c'est plus fort que nous, rappelons qu'en fait c'est faux et courons à celui qui a parfaitement résisté. Et si on en doute, on en arrive à un dernier point que Luc souligne dans ce passage. Regardez la répétition qu'il y a sur l'association du Saint-Esprit et de Jésus. Verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui. Chapitre 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Et verset 14, rempli de la puissance de l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui permet en fait à Jésus d'être aussi obéissant à son Père? Le Saint-Esprit. Et là, on réalise à quel point le salut, c'est juste quelque chose de génial et que, en fait, le terme de bonne nouvelle, c'est un euphémisme. Si on reprend le passage d'avant, chapitre 3 et verset 16, lui, Jésus, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, ce même Saint-Esprit qui était sur Jésus, qui l'a conduit dans le désert, qui l'a aidé à résister au péché, et bien en fait, Jésus, il l'envoie, il nous l'a obtenu. Et nous aussi, on peut être appelés enfants bien-aimés de Dieu, comme nous le rappelait aussi Guy tout à l'heure avec Romains au chapitre 8. On n'est pas tout seul. Jésus, il n'est pas venu et puis il n'est pas parti en disant voyez comment est-ce qu'il faut faire et maintenant bonne chance. Non, il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous aider et pour nous équiper. Et quand on réalise cela, là aussi, ça peut aussi nous faire un petit peu relativiser parfois nos problèmes, ce qui nous occupe l'esprit. On a tendance à tourner en rond des fois parce que ça ne se passe pas bien au boulot, parce que ça se passe bien pas bien dans notre famille. Plein de choses qui nous occupent l'esprit et on se plaint en permanence qu'en fait, notre vie, elle n'est pas comme on voudrait. Mais quand on réalise ce que Jésus, il a fait pour nous, on a un représentant parfaitement obéissant et qui en plus nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. Là, on se rend compte qu'en fait, on est sacrément chanceux et ça peut nous aider à faire relativiser aussi nos problèmes, nos préoccupations. Nous avons donc besoin d'un avocat. Nous avons besoin d'un avocat parce que Dieu est en colère contre nous. Nous avons besoin d'un avocat parce qu'on a envie de changer, mais en fait, on n'y arrive pas sans ça. Et Jésus est ce représentant parfait qui nous assure qu'on peut être sauvé par son obéissance et qui nous permet de devenir obéissant peu à peu grâce à l'aide de son Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que des jeunes filles ont compris et c'est ce dont elles veulent témoigner cet après-midi en se faisant baptiser. En fait, c'est tout simple. C'est tout simple. On a le choix. On a le choix. Pareil, si on reprend ces versets du chapitre 3, versets 16 et 17, on a un choix simple entre choisir de suivre Jésus et d'être baptisé de ce feu, de cette puissance du Saint-Esprit, ou de ne rien faire. Et verset suivant, d'être brûlé comme de la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Cet après-midi, il y a des trois filles qui vont nous expliquer que elles ont choisi de suivre Jésus, ce merveilleux sauveur, ce sauveur fiable, irréprochable. Et la question, c'est, et nous? Et moi? Est-ce qu'on a conscience, d'ailleurs chrétien ou pas, qu'on a besoin continuellement de ce sauveur, de ce Jésus, pour persévérer et pour être délivré de la colère? À bon entendeur. Salut. Et je vais terminer. En priant. Seigneur, je veux te demander pardon parce que je suis le premier à être juste blasé de ce salut dont tu parles, de ce salut en plus qui t'a tellement coûté, pour lequel tu es venu, que tu as souffert, tu as eu faim dans le désert, tu as affronté le diable. Et moi, je suis préoccupé par tellement d'autres choses et je veux te demander pardon pour ça et je te demande de toucher nos cœurs à tous ici pour qu'on se rende compte à quel point c'était la chose dont on a en fait le plus besoin. On a la tête qui des envies, des désirs de plein d'autres choses sauf de ça. Mais je te demande de réorienter nos cœurs pour qu'on puisse s'attacher, pour qu'on puisse désirer, pour qu'on puisse choisir ce salut. Aide-nous à en être sûrs. Aide-nous à être vraiment convaincus qu'on est sauvés. Aide-nous à regarder à ce Jésus. Aide-nous à progresser jour après jour, à nous attacher à lui pour être toujours plus obéissants. Et je te remercie parce que tu es avant tout un Dieu qui pardonne. Il est question de la repentance pour le pardon des péchés. Et merci parce que tu es là avec nous quand on tombe. Et je te demande que tu nous fasses persévérer, que tu nous fasses continuer ou choisir ce chemin de repentance continuelle. On puisse choisir ce pardon et ce sauveur, Seigneur. Dans le nom de ton Fils qui est venu comme ce sauveur, comme ce Messie. Amen.